Il est 22h sur France Culture et le journal vous est présenté ce soir par Armel Balogog. Bonsoir.
Bonsoir. L'Iran s'attire de nouvelles sanctions américaines, notamment sur son secteur minier et sur son acier. La communauté internationale réagit après sa décision de s'affranchir partiellement de l'accord sur son programme nucléaire. Correspondance d'Étienne Monin à Israël dans un instant, puis nous en parlerons avec notre invitée Agnès Levallois, vice-présidente de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. La ministre des Armées provoque un tollé auprès des ONG pour les droits de l'homme. La France va bien livrer des armes à l'Arabie. Mais quelles armes? Explication de Franck Cognard. La République En Marche parie sur la transition écologique pour gagner les élections européennes. Elle dévoile son programme aujourd'hui, 19 jours avant le scrutin. Analyse de Steven Goyer dans ce journal. Et puis une action spectaculaire sur la place de la République à Paris. Une truie gonflable géante y est installée pour dénoncer l'élevage des animaux en cage. Explication de Claire Ancelin de l'ONG CIWF. Donald Trump annonce de nouvelles sanctions contre l'Iran sur les secteurs du fer, de l'acier, de l'aluminium et du cuivre. Le président américain renforce la pression sur Téhéran après sa décision de s'affranchir de deux engagements inscrits dans l'accord sur son programme nucléaire. L'Iran cesse de limiter ses réserves d'eau lourde et d'uranium enrichi. La communauté internationale aimerait pourtant pouvoir éviter cette escalade. Pékin appelle à faire preuve de retenue, tandis que l'ONU espère fortement que l'accord sur le nucléaire iranien pourra être préservé. Israël aussi s'inquiète. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou assure qu'il ne laissera pas l'Iran se doter de l'arme nucléaire. C'est une correspondance d'Étienne Monin.
En Israël, cette annonce arrive le jour des commémorations pour les soldats tombés pour la défense de l'État, à la veille des célébrations pour l'anniversaire de la création de l'État d'Israël. Dans son discours, le Premier ministre a rappelé qu'Israël ne laissera pas l'Iran se doter d'une arme nucléaire. Depuis le début, Benjamin Netanyahou combat violemment l'accord international, officiellement convaincu que Téhéran travaille sur la bombe dans le dos des observateurs. Depuis l'arrivée de Donald Trump, le Premier ministre alimente l'administration américaine sur la voie à suivre. Quelques jours avant l'annonce du retrait américain de l'accord, Benjamin Netanyahou avait donné les derniers arguments à Donald Trump. Les deux leaders semblent s'accorder sur une stratégie de renversement du pouvoir iranien avec l'application des sanctions, sans exclure une intervention militaire en cas de maintien du pouvoir en place. L'ancien et peut-être futur ministre de la Défense a déclaré qu'il fallait se préparer en Israël à une possible attaque de l'Iran. Depuis un an et demi, Israël bombarde ouvertement les positions iranienne sur le territoire syrien.
Étienne Monin, correspondant à Israël. À ce sujet, nous retrouvons l'invité de ce journal, Agnès Levallois, vice-présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée-Moyen-Orient. Bonsoir.
Bonsoir.
On vient d'évoquer la réaction israélienne après la décision de Téhéran de suspendre certains de ses engagements sur le nucléaire. Israël s'y oppose fermement et dit craindre que l'Iran se dote d'une arme nucléaire. Ces craintes sont-elles justifiées dans le contexte actuel ?
Il me semble que ces craintes sont quand même exagérées par rapport à la situation, mais là on est dans la rhétorique, j'allais dire, qu'on entend de la part d'Israël vis-à-vis de l'Iran maintenant depuis des années. C'est l'occasion finalement pour Israël de remettre ce sujet sur le tapis et de continuer à accentuer la pression sur l'Iran, et c'est aussi, je pense, un élément qui est adressé aux États-Unis pour que les États-Unis continuent à exercer cette pression sur l'Iran.
Donc il ne faut pas craindre tout de suite un armement nucléaire de l'Iran.
Non, puisque le processus est encore assez long pour que l'Iran puisse obtenir cela, et que dans les conditions actuelles justement des sanctions qui s'appliquent contre ce pays, l'Iran aura quand même les plus grandes difficultés à pouvoir obtenir tout ce dont il a besoin pour obtenir et arriver au stade qui lui permet vraiment de détenir cette arme nucléaire. Donc on n'est pas encore, me semble-t-il, en tous les cas, dans ce cas de figure.
Téhéran lance un ultimatum aux pays européens. Ils ne l'auraient pas protégé des sanctions américaines et ils ont maintenant 60 jours pour trouver une solution et sortir l'Iran de son isolement. Sinon, Téhéran renoncera à d'autres engagements. Les Européens doivent-ils et peuvent-ils céder à cet ultimatum ?
Tout le problème qui se pose dans cet accord, si vous voulez, c'est qu'il a été remis en question par une des parties signataires, ce sont les États-Unis, les Européens, même si dans le discours, ils ne suivent pas les Américains, dans les faits, ils le suivent, puisque les sociétés européennes ont tout arrêté de commercer avec l'Iran pour ne pas subir les foudres des Américains. Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué, hein, puisque le système économique est complètement sous la domination du dollar américain, et qu'à partir de là, c'est très difficile de pouvoir adopter une mesure qui permettrait de rester dans l'accord, à moins de trouver une solution avec les Chinois, les Russes, pour tenir tête aux Américains. Et on voit bien qu'on n'est pas du tout dans ce cas de figure pour l'instant.
Et pourtant, au début de l'année, les pays européens ont créé l'Intex. Donc c'est un programme qui est quand même assez méconnu de troc pour contourner les sanctions américaines contre l'Iran. Et donc c'est un programme que l'Iran juge pas assez efficace.
Oui, il n'est pas assez efficace parce que, alors c'est vrai que sur le papier, là encore, c'est très bien, mais les Iraniens eux-mêmes reconnaissent que cet accord est extrêmement limité. Toutes les grandes sociétés dont l'Iran a besoin ne vont pas prendre le risque de se lancer dans ce mécanisme. Donc ça peut, si vous voulez, à la marge, ponctuellement, être utilisé par certaines entreprises européennes. Mais c'est vrai que c'est largement en deçà des attentes des Iraniens qui auraient souhaité que l'Europe soit beaucoup plus allante à résister aux pressions américaines.
Mais à vous écouter, on n'envisage pas de solution. Finalement, il n'y a pas d'issue à ce conflit.
Non, la seule issue, ce serait que cet accord soit respecté, puisque même si on peut considérer que cet accord n'est pas parfait, et il n'était pas parfait, il avait quand même été signé par l'Iran, je le rappelle, et par les pays européens et les États-Unis, et le fait que les États-Unis sortent, alors qu'il n'y avait aucune raison de le faire, puisque l'Iran, jusque-là, avait respecté les termes de cet accord, à partir de là, c'est vrai qu'on voit qu'on est dans une impasse. On a un Iran qui est complètement acculé aujourd'hui, qui n'a plus de possibilité de travailler avec l'ensemble des pays. Là encore, attendons de voir ce que vont faire les Chinois et les Russes, et les Turcs éventuellement, qui aussi se sont élevés contre ces nouveaux trains de sanctions qui s'appliquent à ce pays. On a un Américain, Trump, qui est très déterminé et qui est poussé en cela par les Israéliens et les Saoudiens. Donc on a le sentiment effectivement qu'aujourd'hui, la diplomatie est quand même à la peine pour tenter de trouver une solution.
Agnès Levallois, le président américain Donald Trump vient d'annoncer de nouvelles sanctions sur le secteur minier et l'acier iranien notamment. Ces nouvelles sanctions peuvent-elles être une solution ?
Écoutez, je suis très réservée sur cette utilisation des sanctions, puisque l'Iran est un pays qui a déjà été pendant des dizaines d'années sous sanctions. Ceux qui payent le prix fort de ces sanctions, ce sont avant tout les habitants de ce pays, c'est la population iranienne qui souffre quand même terriblement de cette situation. Alors, qui est dans l'idée des Américains derrière cela, c'est de pousser la population iranienne à se soulever contre le régime et à faire tomber ce régime. Est-ce que c'est la meilleure façon de s'y prendre ? Donc l'escalade dans les sanctions, je suis assez réservée sur la façon de mener cela et sur les avantages, si vous voulez, qu'il pourrait y avoir à rentrer dans cette dynamique, qui est une dynamique quand même extrêmement dure et qui peut pousser les Iraniens, du coup, à réagir. Et qu'est-ce qui peut se passer à partir de là ? Donc on rentre vraiment dans un cycle éventuel de violence, de tension extrêmement forte, et je ne suis pas sûre que la région du Moyen-Orient ait besoin de cette tension supplémentaire aujourd'hui.
Merci beaucoup Agnès Levallois. Et en France, le ministère des Affaires étrangères se dit préoccupé par les annonces de Téhéran. Il appelle à éviter toute action qui alimenterait cette escalade. Paris appelle l'Iran à continuer de respecter l'ensemble de ses obligations. Les 23 000 bureaux de vote sont fermés depuis une heure en Afrique du Sud. Les Sud-Africains ont voté en nombre aux élections législatives et régionales que le Congrès national africain au pouvoir depuis 25 ans devrait remporter. Le dépouillement a immédiatement débuté. Les premiers résultats devraient être livrés demain. La Ligue des droits de l'homme appelle à se rassembler demain au Havre sur le terre-plein de l'écluse François Ier, non loin du port où doit accoster un cargo saoudien dans lequel des armes françaises seront chargées. La France a reconnu qu'une telle livraison devait bien avoir lieu sur ce navire dans le cadre d'un contrat commercial. Mais la ministre des Armées, Florence Parly, tente de rassurer. Elle dit n'avoir aucune preuve que des armes françaises sont utilisées dans la guerre que mène l'Arabie au Yémen. Reste une incertitude. Quelles sont ces armes ? Selon le site d'investigation Disclose, ce sont 8 canons César, mais la ministre le nie. Franck Cognard, que sait-on ce soir sur cette livraison ?
Les canons César que l'Arabie Saoudite a commandés ont déjà été acheminés, c'est ce qu'affirment plusieurs sources qui précisent bien qu'il n'y a pas de canons César en attente de livraison sur le port du Havre. A priori également, selon nos informations, le cargo Bahri Anbu ne chargera pas non plus de Charles Leclerc, mais personne ne veut dire quelle sera la cargaison du navire saoudien en dehors d'un vague, c'est du matériel de guerre. Le gouvernement français est pressé par des ONG de faire comme l'Allemagne, décréter un moratoire sur la vente d'armes à l'Arabie Saoudite pour ne pas risquer leur utilisation contre des populations civiles. 60 000 personnes sont mortes depuis le début de la guerre au Yémen, une guerre que mène sur place, par procuration, le régime saoudien aux Iraniens. Le Bahri Anbu avait plusieurs escales prévues en Europe, l'Angleterre, la Belgique, la France, pour y charger des armes commandées. En 2018, Riyad a dépensé plus de 65 milliards de dollars pour ses équipements militaires.
Franck Cognard pour France Culture. La France appelait à être plus claire sur son soutien au chef du gouvernement libyen d'Union Nationale. Emmanuel Macron a réaffirmé son soutien et encourage un cessez-le-feu sans condition après une rencontre avec Fayez al-Sarraj aujourd'hui. Mais ce n'est pas assez pour le chef du gouvernement libyen qui espère une prise de position plus forte contre le maréchal Haftar un mois après le début de son offensive et alors que ses troupes sont aux portes de Tripoli. La République En Marche dévoile enfin son programme pour les européennes, seulement 19 jours avant le scrutin. La liste Renaissance veut s'imposer face au Rassemblement National. Les deux partis sont au coude à coude dans les sondages aux alentours de 22%. Et pour cela, la chef de file, Nathalie Loiseau, parie sur un programme centré sur la transition écologique. Explication de Steven Goyer.
En tout cas, la liste tente effectivement de jouer à fond la carte verte et c'est même la première priorité donnée dans le fascicule de 32 pages publié cet après-midi avec l'annonce d'un investissement de 1000 milliards d'euros d'ici 2024 dévolu uniquement à la transition écologique. Une somme qui servira notamment à financer la rénovation de logements ou le développement des énergies propres avec un objectif fixé pour financer ces mesures, consacrer 40% des dépenses européennes à la question de l'environnement. On s'y attendait, mais cette fois c'est officiel. Le projet Renaissance, nom donné en première page, veut faire participer l'épargne des Européens à la croissance verte, pour reprendre les termes utilisés, avec la volonté également de créer une banque du climat à l'échelle européenne. D'autres mesures sont directement tirées de la lettre d'Emmanuel Macron aux Européens publiée le 5 mars dernier, comme le zéro carbone d'ici 2050 ou la division par deux des pesticides d'ici 2025. Des propositions qui viennent s'ajouter à la présence de certaines têtes d'affiche subtilisées aux écologistes. Pascal Canfin, deuxième sur la liste, Pascal Durand ou encore Daniel Cohn-Bendit pour ne citer que, manière comme le document l'indique, de faire de l'Europe une puissance verte et qui permet également à la liste portée par Nathalie Loiseau de s'emparer d'une thématique toujours très porteuse lors des scrutins européens et de ne pas perdre de terrain face à une autre liste qui ne se veut ni de gauche ni de droite, celle précisément d'Europe Écologie Les Verts portée par Yannick Jadot.
Steven Goyer. Une truie géante sur la place de la République à Paris. La structure gonflable est baptisée Hope, Espoir. Elle a été installée par l'ONG CIWF pour de la compassion dans l'élevage, car elle souhaite en finir avec l'élevage des animaux en cage. Cette truie géante représente les lapins, les poules, les cailles, les 300 millions d'animaux élevés dans ces conditions chaque année en Europe. Des conditions qui sont contraires aux besoins de ces animaux, selon Claire Ancelin, la porte-parole de cette ONG en France.
Une truie passe à peu près la moitié de sa vie enfermée, en case de gestation, puis en case de mise bas. En fait, c'est une fois qu'elle a eu ses petits, la truie est vraiment enfermée dans une case dans laquelle elle ne peut même pas ni se retourner, ni faire un pas. Elle est vraiment immobilisée.
Et la deuxième partie de sa vie ?
Elle est élevée en groupe, en général sur caillebotis, dans des élevages intensifs, parce que vous savez que l'élevage porcin en France, il est très majoritairement intensif. 95% en fait des cochons élevés en France sont élevés sur caillebotis, c'est-à-dire sur un sol nu, sans paille, sans rien à fouiller, alors que le cochon, il a vraiment besoin, c'est son instinct naturel, il a besoin de fouiller le sol.
Vous dites que les Français, les consommateurs en tout cas, sont généralement demandeurs d'autres pratiques d'élevage.
Oui, notre dernier sondage que l'on a fait avec IFOP révèle que 85% des Français, c'est assez énorme, sont prêts à réduire leur consommation de viande pour choisir des produits certes un peu plus chers, mais plus respectueux à la fois des animaux et de l'environnement.
Claire Ancelin répondait à Véronique Rebérotte. D'ailleurs, 145 organisations de défense des animaux ont lancé une initiative citoyenne pour obliger l'Europe à s'emparer du sujet. Elle a recueilli déjà 850 000 signatures sur le million nécessaire pour que la Commission de Bruxelles s'en empare. La météo, demain, avec encore des pluies du centre vers le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, ainsi que sur le nord des Alpes, le ciel sera chargé avec des ondées éparses des Hauts-de-France vers le Massif central. Ailleurs, le temps devrait rester sec sous un ciel variable. Les températures minimales vont varier de 6 à 12 degrés, les maximales de 20 à 23 degrés. C'est la fin de ce journal préparé avec Caroline Beneteau.